Bonjour, merci d'être venus nombreux ce matin. Ce qui va nous réunir aujourd'hui, c'est un livre qui s'appelle « Un monde à portée de main » que j'ai écrit et évidemment l'œuvre de Patrick Boucheron qui a travaillé aussi sur les images et qui est historien. Par ailleurs, on va d'abord commencer peut-être par se demander où on en est, se donner quelques nouvelles, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pour nous deux ces dernières années. Il y a eu cette histoire de l'histoire mondiale de la France qui a été très importante pour Patrick Boucheron et l'équipe d'historiens qui ont travaillé autour de lui pour ce livre. Et moi aussi, il y a eu ce livre d'avant, Réparer les vivants. Et quand on s'est parlé avec Patrick pour se dire, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire dimanche matin, on s'est dit que peut-être qu'on pourrait parler dans un premier temps de, voilà, qu'est-ce que c'est aussi de revenir au travail, de revenir au texte, de reprendre pied un peu dans l'écriture. Et on avait un peu envie de commencer par ça.
Bonjour à tous. Oui, c'est vrai qu'au fond, peut-être qu'il faudrait dire simplement que pour nous, en tout cas pour moi, s'adresser en public comme ça, un public si nombreux, si bienveillant, mais enfin quand même impressionnant par son nombre un dimanche matin, ça ne me sera jamais naturel. Je ne considère pas ça normal de devoir parler comme ça à des gens qui viendraient m'écouter. Et donc ça vous fait, parcourir une gamme d'émotions qui est très variée. Et c'est vrai qu'avec Mélisse, avec d'autres, mais avec Mélisse, eh ben, on se donne des nouvelles de temps en temps, parce qu'on se connaît, donc on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. Et j'avais été très ému par la manière dont elle avait accueilli, de manière brave, justement l'incroyable puissance d'émotion que Réparer les vivants avait suscité, et c'était formidable, et c'est juste formidable, et on devrait s'arrêter là, parce que quand on fait quelque chose avec un livre, quand on s'adresse aux vies de ceux qui le lisent, eh bien voilà, on a c'est une récompense merveilleuse. Mais en même temps, il y a un moment quand il y a un fort engouement où voilà, tu as dû, c'est pour ça que je parle d'être brave, tu as dû affronter voilà, l'émotion de plein de gens. Et de temps en temps, à la fin, on est un peu submergé. Moi, ça n'a rien à voir, je suis historien. Mais avec ce livre qui s'appelait « L'histoire mondiale de la France », j'ai été confronté non pas à des affects privés, mais à une sorte d'émotion collective qui nous a aussi un peu débordés. Alors, de temps en temps, on s'appelait, puis on se disait, ça va. Oui, ça va, parce qu'on retourne au travail, on ralentit la cadence. On va essayer, non pas d'aller chercher à se planquer. Je crois qu'un monde à portée de main est une continuation de ton travail, mais en même temps sur un autre rythme, sur une autre cadence, avec la volonté peut-être de ralentir ou de ralentir l'intrigue, d'être au plus proche justement de ce qui se travaille, ce qui se peint, ce qui se pense, et de dire que, ben non, on n'a pas subi de chirurgie cardiaque, non, on n'a pas construit des ponts, non, on n'est pas restaurateur d'art, et moi-même je suis historien, et à un moment je me suis intéressé à la France. Mais j'ai rien à lui reprocher, j'ai rien à lui réclamer. C'est un objet et un peu de calme pour revenir au fond au travail. Hein, c'est de ça dont on parle.
Il y avait l'idée, je pense, de se déprendre aussi d'un tumulte, de se déprendre aussi des affects des autres, même si, moi, je le dis pour moi-même, j'ai trouvé une grande émotion à porter ce livre, aussi parce que ces moments sont pour moi souvent des moments d'éclaircissement, des moments où, au moins, étant amené à formuler aussi des réponses à des questions et dans ce partage, à penser quelque chose aussi de ce qui a pu être, de ce que j'ai pu écrire, peut-être de le mettre en perspective avec d'autres choses. Et dans cet éclaircissement, il y a aussi quelque chose qui continue et qui se maintient, qui est toujours vivant dans cette espèce de déprise. Quand elle revient, elle est aussi forte de ça. Et je pense que c'est vrai que, pour le coup, ce livre-là, c'est un livre où j'ai essayé de me rassembler, de me réunir. C'est vrai que c'est un livre plus exploratoire, plus lent. Il y a quelque chose qui est plus calme. Et de la même manière, je crois que tu achèves un livre en ce moment, et c'est vrai qu'il y a voilà tout ce qui implique aussi le travail d'écriture, qui s'articule tout de même avec des moments publics, des moments où on tient une parole en public, et puis des moments où il y a cette espèce de retrait sans lequel, de toute façon, on peut difficilement continuer à travailler.
Et puis ce qu'il y a de beau et de troublant, c'est qu'au fond, lorsqu'on choisit justement de, comme tu le dis, construire une clairière au cœur du tumulte, on va aller choisir un sujet apparemment plus difficile, plus âpre, plus exigeant, qui va nous demander plus de travail, qui va nous demander d'apprendre. C'est de cela dont on a envie de vous entretenir ce matin. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre ? Apprendre pour écrire. Et écrire avec un autre lexique. Ce qu'il y a effectivement de magnifique dans la poétique de Mélisse de Kerangal, c'est que chaque livre ouvre d'une certaine manière une taxinomie, ouvre un lexique, ouvre un savoir. Et donc quand on parle des savoirs de la littérature, c'est aussi tout ce qu'elle accueille. Et donc on va chercher un sujet qui apparemment est plus loin de nous, c'est ce que je fais actuellement, et ce faisant, on se rapproche de soi-même. Et ça, c'est cette question effectivement de la clairière. Alors, bon, on s'est dit, pour engager cette conversation, peut-être que le plus simple, ça serait de s'entrelire. Alors, justement, je vais commencer par vous lire un passage de Mélisse, d'Un monde à portée de main. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, on suit Paula et ses amis dans à la fois un apprentissage, c'est un roman d'apprentissage. Elle devient peintre de décor, on va dire. Elle commence à travailler les bois, puis les marbres, puis on en parlera peut-être un moment où elle peint un ciel. Mais là, on est encore dans la forêt. On est justement, non pas dans l'éclaircie, mais on est dans la clairière, on est au début. On lui apprend, c'est à Bruxelles, à peindre. Et je vais vous lire un passage. Apprendre à imiter le bois, c'est faire histoire avec la forêt. La dame au col roulé noir dit aussi établir une relation, entrer en rapport. Et Paula fait longtemps tourner cette phrase dans sa tête pour qu'elle décante. Elle attend. Une vie végétale frémit dans l'atelier, qui se prolonge sur les panneaux, prolifère sur les palettes où les couleurs nuancent les jaunes, dégradent les bruns, héberge un peu de rouge pour les acajous et ce noir absolu que l'on trouve au cœur des ébènes les plus purs. Les arbres se fendent, leur bois révèle des aubiers clairs, des duramans toujours plus sombres, enseignent un répertoire de formes, un entrelacement de fils droits, ondulés ou spiralés, un semis de pores et de loupes qui chiffrent un monde à portée de main. Une forêt se lève dans l'atelier, tissée de récits qui mélangent les sylves de l'enfance, celles des contes, celles du loup et de la fée, des cailloux blancs et du renard, celles que l'on traverse en serrant fort la main du bagnard évadé, les bois de campagne, les jungles politiques, chaque apprenti apportant la sienne. Et celle de Paula est une forêt de cinéma, visible sur une pellicule de mémoire cramée par endroits, mais où l'on peut voir chaque détail du visage de Marie, sa mère, la bouche grande ouverte, l'œil dans le viseur d'une caméra Super 8 d'objectif Zeiss, le cou effleuré par de beaux anneaux d'or qui captent des bris de soleil et font alliance avec le vaste sous-bois où, durant ce mois d'août, elle tourne un court-métrage, L'enfant des fougères, une histoire d'enfant sauvage inspirée de celle de Victor de l'Aveyron, une histoire d'enfant sans parents, sans fratrie, le summum du bizarre pour Paula, toujours un peu perdue l'été quand les vacances rassemblent autour d'elle une famille pléthorique. réquisitionne les gosses de la maison, les plus grands qu'il faut attirer devant l'objectif, traqués dans leur chambre ou devant la télé, les plus petits excités qu'il faut canaliser, et parmi eux, Paula, donc, 9 ans, qui, à l'instant pile où sa mère crie « action », entre dans le film, s'avance dans la forêt familière, qui se métamorphose à mesure que la caméra tourne, devient ce territoire inconnu où le lointain et le proche disparaissent, où la température chute, où le volume sonore monte, chaque bruit éclate, puis vit sa vie de bruit. Le plan séquence dure, l'enfant Paula marche en plein mystère, ne reconnaît plus le chemin défoncé par le passage des machines agricoles, cranté dans la terre sèche, ni les trous que font les sabots des vaches, ni la zone de jeu où chaque souche porte un nom, où les emballages de pétards et les mégots de cigarettes se mélangent à la terre, où des balles de tennis jaune fluo oubliées sous un fût sont devenues grisâtres, spongieuses. Elle se sent devenir une autre personne. La pénombre est criblée de lumières perforées, de rayons qui obliquent en tous sens. Elle se tient dans une histoire, accomplit chaque pas, atteint la cabane de l'enfant sauvage où l'attend assis sur une pierre et fumant une gitane, un garçon torse nu en chapka de cuir et lunettes d'aviateur, l'aîné de ses cousins qu'elle ne reconnaît pas. Chêne, pin, eucalyptus, palissandre, acajou moucheté, loupe de thuya, tulipier de Virginie ou catalpa. Octobre passe et Paula s'en tire. Elle est confuse, suante, échevelée, rêve une nuit que sa peau est devenue ligneuse, mais produit des images, même si son panneau se distingue des autres, laborieux, toujours un peu faiblard. Jusqu'au jour où elle entend pour la première fois parler de la vitesse du frêne, de la mélancolie de l'orme, ou de la paresse du saule blanc, elle est submergée par l'émotion, tout est vivant.
Merci, merci. Oui, c'est cette histoire d'apprentissage qui est au cœur de ce roman. Et je dois commencer par dire que voilà ce qui nous a amené aussi à choisir ce passage, c'est qu'il y a cette idée de faire histoire avec quelque chose, entrer en rapport avec quelque chose, mais faire histoire avec. Et c'est sans doute pour ça que Patrick aussi a choisi cet extrait. Dans une histoire, dans ces objets de curiosité que l'on se donne pour travail, dans ces objets qui nous excitent, qui nous émeuvent. C'est vrai que moi, je vois bien combien j'aime me diriger, m'orienter vers des mondes inconnus pour justement me déjuger, me mettre un peu en danger, être un peu inculte, ne pas savoir, être face à une forme d'inconnu. Et c'est vrai que pour moi, le roman, c'est comme si je lui demandais de me conduire dans ces territoires, dans ces domaines, et vers ces autres langues. C'est-à-dire que, et de fait, c'est un peu aussi le geste de cette héroïne qui peut ressaisir de la sorte des choses de moi-même, c'est-à-dire l'idée que justement, en travaillant à reproduire les bois, puis les marbres, puis peut-être les écailles de tortue, c'est-à-dire les matières, les matériaux qui composent le monde, elle va devoir les connaître et qu'elle ne pourra rien faire sans les connaître. Donc il y a quand même dans ce rapport à la copie, qui est aussi un rapport à la peinture, enfin en tout cas dans la pratique de peindre, il y a un rapport au savoir qui me touche beaucoup. C'est pour moi, de toute façon, quand j'écris, c'est pour moi une grande émotion personnelle d'aller chercher quelque chose d'immersif dans ces mondes. Et presque plus que d'apprentissage, je parle beaucoup d'initiation, en fait. J'ai l'impression que les romans sont des initiations renouvelées où j'accède à autre chose. autre chose, un peu d'ailleurs comme on en trouve dans certaines rites. Il y a des rites d'initiation, comme il y en existe chez certains peuples encore, par exemple, et des rites de passage. Et c'est vrai que pour moi, c'est une initiation au sens où cette école à Bruxelles, c'est un sas, elle est close, elle est. Paula y reçoit des produits, elle y reçoit des gestes à accomplir, elle y reçoit des mots, et quand elle va sortir, c'est un roman de sortie d'adolescence, elle va se trouver devant la jungle du monde. Donc il y a aussi quelque chose qui tient à la formation, à l'initiation et l'apprentissage. En cela, je trouve que c'est quelque chose de profondément émouvant, aussi parce que dans l'apprentissage, j'ai toujours l'idée qu'il faut se séparer, quoi, que apprendre, c'est un peu se déceler de quelque chose. Et ça me touche. Il y a toujours quelque chose d'un peu déchirant. Et d'ailleurs, dans ce livre, ça fait un peu mal.
Oui, mais parce que si moi je me retrouve en fait aussi dans cette clairière fictionnelle, hein, au cœur de l'histoire, c'est parce que au fond c'est aussi un livre sur ce que pourrait être une histoire naturelle. Et la difficulté qu'on aurait à la dire, parce que les mots manquent au fond, sauf à, toujours à faire de lexique, aller chercher, je dirais, le langage technique. Il y a une beauté du langage technique lorsque, je crois que c'est un livre qui est géologique à plein d'égards, d'abord parce qu'il y a différentes strates, ça s'achèvera à Lascaux, et parce que je crois savoir effectivement qu'au départ c'est plutôt... la roche-mère, disons, du livre, c'est plutôt dans la géologie que tu as trouvé. Quand elle apprendra à moucheter, à veiner des marbres, alors là, on sera dans l'histoire naturelle des grands agencements anonymes, qu'on appelle le Dévonien, et donc on racontera l'histoire de la Terre. Mais là, au contraire, on doit peindre des bois, et chacun doit, au fond, dire... quelle est sa forêt intérieure. C'est ça qui est effectivement touchant, et c'est ça apprendre. En fait.
Oui, d'ailleurs, la dame qui enseigne, la dame au col roulé noir, elle leur dit, d'ailleurs contrairement à cette idée que le peintre, en tout cas le peintre de trompe-l'œil, le copiste, s'efface devant l'image, ne doit pas apparaître, elle leur dit par ailleurs, pensez à peindre avec vos glaciers intérieurs, vos volcans, vos villas abandonnées, vos palais, et évidemment que faire histoire avec, c'est aussi la question de l'émotion, et je pense qu'évidemment elle se pose en histoire aussi.
Oui, et ben justement...
C'est très central.
Et précisément au moment où l'attention se relâche, par fatigue ou par concentration, je dirais, l'attention se relâche, alors effectivement, on abandonne, on laisse derrière soi quelque chose qui vient de très loin et qui nous touche de très près. Ça, c'est voilà, il y a le fameux texte qui a à voir avec la forêt, qui a à voir avec la chasse, qui a à voir avec la trace de Carlo Ginzburg sur la trace justement, et qui raconte qu'effectivement on invente en même temps le symptôme psychanalytique, l'indice de la police scientifique et le détail en peinture. Morelli montre à la fin du 19e siècle que c'est lorsque effectivement le peintre d'atelier, on va dire le copiste, est le plus fatigué et au fond le plus apparemment rêveur et loin de lui-même, que dessinant un ongle ou effilochant un nuage, il va dire quelque chose de profond de sa vie et où on va le reconnaître. Puisque effectivement, c'est ça la force de l'expertise ou de l'œil, c'est que n'importe qui peut faire un Léonard comme Léonard, en vérité. N'importe qui. Mais Léonard va se trahir là où il ne fait pas gaffe, sur un détail minuscule, et où là, ceux qui vont le copier ne songeront pas à l'imiter et feront passer quelque chose d'essentiel.
Oui. Moi, ça me touche beaucoup, cette question dont tu parles, de l'abandon, justement, de ce que l'on ne retient pas, de ce que l'on ne retient pas dans le travail. Dans le passage que tu as lu, précisément, Paula Peignan, apprenant à peindre les bois, c'est octobre, elle est au début de cette école, elle n'est pas très douée, c'est un peu dur. Et il s'agit de copier. Donc après, c'est vrai que moi, j'étais assez... Ça m'a touchée. Et en plus, j'avais assez envie d'aborder la question de l'art et de la peinture par le biais d'une pratique jugée, dépréciée, minorée, en tout cas méprisée, qui est celle de la copie. Mais c'est vrai que dans ce passage que tu as lu, elle, précisément, s'abandonnant, elle accède à une scène d'elle-même où précisément revient, quelque chose revient de son enfance et de ce film que sa mère tournait dans les bois, qui s'appelait L'enfant des fougères, qui est une histoire d'enfant abandonné. Et en fait, sa propre histoire revient. Et là, elle tisse un vrai rapport avec cette pratique, peut-être un peu, à mon avis, mal regardée, qui est la copie. Et qui en fait lui donne accès à quelque chose. Et cette notion d'accès, pour moi, elle a été très importante quand j'écrivais ce livre. C'est-à-dire, il y a dans le travail de la fiction, dans la fiction, c'est aussi creuser des galeries, forer des accès. Voilà. Je voudrais lire également. Quelque chose sur ce que tu as pu écrire dans Léonard et Machiavel, dans ce qui est peut-être un livre de, on va dire de, quand même, qui est un livre de fiction que tu as écrit, qui est une fiction où tu as imaginé, rêvé, fantasmé, mais aussi tracé. Cette rencontre entre ces hommes, et à un moment donné tu parles aussi de la notion d'apprentissage que tu en la pensant de manière plus collective, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend de l'autre, comment ça se il y a ces ateliers, il y a une espèce de fluidité créatrice peut-être dans les ateliers de la Renaissance où les modèles, les peintres, tout le monde est un peu sur un plan immanent comme ça. Bon, il y a quand même le maître sûrement évidemment au-dessus, mais et Léonard lui aussi apprend des autres, et je voudrais dire un passage que tu as écrit. Au moment de quitter Milan, Léonard n'oublie pas que malgré son intérêt croissant pour le paradis des mathématiques que recèle le secret des livres, il demeure ce qu'il a toujours prétendu être, un disciple de l'expérience. Tant de choses sont à apprendre, des techniciens, des ouvriers, des maîtres et des rencontres de passage. Lorsqu'il faut plier bagages et faire l'inventaire de ce qu'il emporte avec lui, Léonard se soucie toujours d'accroître ce trésor qui pèse si peu et n'entrave en rien cet héritage qui se partage sans se diviser, l'expérience. Apprendre de ceux que l'on quitte encore et encore. Apprends à obtenir la couleur chair, à la détrempe. Apprends à fondre la résine dans le vernis laqué. Mais aussi, car il n'est pas de curiosité plus noble qu'une autre, apprends le nivellement et combien de terre un homme peut extraire en une journée. Léonard de Vinci a sans doute entendu parler d'un peintre de la suite de Louis XII, Jean Péréal, dont on dit qu'il maîtrise une technique nouvelle de pastel. Fais-toi donner par Jean de Paris la méthode pour peindre à sec et la façon de fabriquer du sel blanc et du papier teinté, soit en feuillet détaché, soit en rame, et aussi sa boîte de couleurs. Miniaturiste et peintre ordinaire du roi, Jean Péréal est à Milan en ces derniers jours du mois de décembre 1499 pour exalter, par ses dessins et par les cérémonies qu'il met en scène, la gloire du roi de France comme un triomphe à l'antique. Grand ordonnateur des fastes de la monarchie, Jean Péréal fut à Charles VIII, Louis XII puis François Ier, ce que Léonard de Vinci était à Ludovic le Mort. Musique, costumes, décors, automates, machinerie théâtrale, architectures éphémères des coulisses et des scènes, rien n'échappait à la vigilante attention de l'opératore Léonard. La gloire du maître toscan dans l'Europe des cours tenait d'abord à ses talents multiples dans l'art de flatter l'image que les princes avaient d'eux-mêmes. Ces machines, lorsqu'elles n'étaient pas conçues pour faire la guerre,
devait assurer les effets spéciaux de l'illusion théâtrale sur les tréteaux des fêtes de cour. Ainsi, le spectacle cosmogonique offert à Milan en 1490 pour les noces d'Isabelle d'Este et de Gian Galeazzo Sforza, cette fête du paradis qui mettait en scène la cour gravitant autour du prince comme une analogie du cosmos et du cours des planètes, et faisait rêver tous les princes s'imaginant volontiers en roi soleil.
Oui, parce que Léonard est aussi un enfant abandonné, et c'est un enfant retardé. C'est-à-dire qu'il n'a jamais cessé de se poser les questions qu'on se pose quand on est enfant et qu'on cesse de se poser, non pas parce qu'on a obtenu les réponses, mais parce qu'on s'est lassé de les poser. Les carnets de Léonard sont des carnets, les carnets de ses étonnements, de ses émerveillements. Il se pose la question de savoir pourquoi la lune grossit à l'horizon. Ce sont des questions qui sont effectivement des questions adressées au monde, et lui aussi veut l'avoir à portée de main, ce monde. Et c'est en le dessinant qu'il va tenter de reconstituer ses rythmes. Et tu dis que j'imagine, oui, j'imagine, je fictionne, je n'invente pas, puisque tout cela, effectivement, le texte que tu as lu est criblé de guillemets, parce que c'est Léonard lui-même qui se parle à lui-même lorsqu'il dit « apprends à ceci, apprends cela », c'est-à-dire qu'il s'inscrit effectivement dans un savoir collectif. Il est toujours dans ses carnets en train de s'apostropher pour dire, se dire, voilà, il y a tant de choses dans le monde que tu dois effectivement apprendre des techniques. Alors il y a quelque chose d'assez tragique au fond dans cette soif continue que Léonard de l'innovation, parce que tu sais que voilà, donc il va aller apprendre le pastel par Jean Péréal, mais tout le reste lui laisse un goût éternel d'insatisfaction. Et puis, lorsque il peint ce qui aurait dû être la plus grande œuvre de sa vie, c'est-à-dire la scène dans le réfectoire de Santa Maria delle Grazie, eh ben, il a la très mauvaise idée de vouloir le peindre avec une technique neuve que personne ne lui a appris et que lui a inventé et qui se révélera catastrophique. Et dès lors, effectivement, la scène de son vivant même s'effrite, disparaît, et elle offre encore aujourd'hui le spectacle accablant de sa propre disparition. Donc, au fond, le châtiment de Léonard est, à un moment le plus crucial de sa vie, de ne pas d'avoir oublié qu'il était le fils de l'expérience, mais d'avoir voulu inventer une technique nouvelle qui s'est révélée désastreuse. C'est pour ça que moi je l'aime particulièrement lorsqu'il est entouré. Son atelier, on ne le connaît pas beaucoup, mais son groupe, quoi, sa bande, comme autour de Paula, une bande, et une bande un peu tumultueuse. Et bien sûr que, évidemment, lorsqu'on a... Ah, ça me touche aussi ce que tu dis et ce que tu dis de cette capacité d'apprendre des autres, puisqu'on se donnait des nouvelles. Bon, voilà, je sors d'un grand chantier collectif et j'aime aussi écrire en bande parce qu'on apprend, on se surprend. On travaille à ne pas trop se décevoir. On est sans cesse dans cette émulation un peu crâne, sans doute un peu juvénile, mais que tu décris si bien. Et ensuite, après, quand c'est fini, on est seul et triste.
Est-ce que on lirait pas ce moment sur les pigments ?
Ah oui. Oui, parce que...
Parce que dans cette histoire aussi de pastel de Jean Péréal, il y avait quelque chose qui nous intéressait tous les deux. C'était précisément justement l'alchimie, le geste technique et l'idée que justement les matériaux du monde vont composer ces couleurs. Et il y avait l'idée que justement apprend à fabriquer ce blanc de sel. Et pour Paula, à un moment donné... Il est question d'un plafond.
C'est la deuxième partie du livre qui s'appelle « Le temps revient ». « Le temps revient », c'est d'ailleurs le slogan qu'en français, Laurent le Magnifique faisait claquer sur ses étendards dans le ciel de Florence. C'est l'image même, au fond, la devise même de la Renaissance. Et il est un peu question de Renaissance dans ce passage, puisque c'est la première commande. Hein, de Paula.
Le premier chantier.
C'est le premier chantier
le tout premier.
De Paula. Un matin, on sonne à la porte. Paula est seule dans l'appartement. Elle finit par aller ouvrir. C'est une mère, sa voisine, qui a la peau du visage tirée par les nuits blanches, le cheveu filasse et les dents négligées, mais son regard impressionne Paula quand elle lui annonce un ciel. Je veux que vous veniez peindre un ciel dans la chambre de mon enfant. Alors bon, elle se pose la question, elle prépare le chantier, elle commence par préparer les lieux, étale à quatre pattes la bâche de plastique, etc. Ça va marcher et pas marcher, elle va...
Je dirais, elle investit, à un moment j'ai écrit, elle investit ce plafond. Comme il s'agit d'un plafond dans une chambre d'enfant pour un bébé qui vient de naître, il y a quelque chose qui la dépasse et qui la leste d'une espèce de responsabilité, ce qui fait qu'elle investit ce premier chantier. Elle croit un peu qu'elle va peindre la chapelle Sixtine, alors que c'est quelques mètres carrés d'une petite chambre sur cour.
Parce que cette fois-ci, effectivement, comme c'est son premier chantier, ce n'est pas seulement l'histoire de sa vie qui lui revient, voilà, la clairière de son enfance, c'est inévitablement, quoi qu'on fasse, toute l'histoire de la peinture. Toute l'histoire de la peinture qui est convoquée dans cette chambre d'enfant et qui va donc se pencher au-dessus de l'épaule de la mère qui rêverait tant de voir son jeune bébé ouvrir les yeux vers un ciel alors dont elle ne sait pas s'il serait plus azuréen que lourd. Voilà. C'est l'éternelle question des nuages. Il y a un très beau livre d'Hubert Damisch sur l'histoire des nuages, qui est, comme vous le savez, dans les ateliers de la Renaissance. C'était la chose que l'on laissait aux apprentis et où, justement, ils s'exprimaient de la manière la plus secrète. Plus tard, au milieu de l'après-midi, le blanc est sec. Le plafond prêt pour le recouvrement et Paula s'agenouille. Elle jette un œil autour d'elle, les parois sont blêmes, la fenêtre sans jour, elle a lu quelque part que les murs du paradis étaient en saphir. « Je suis pourtant à la bonne adresse », sourit-elle en triplant le tour d'élastique de sa queue de cheval. Puis elle ouvre les pots en glissant sous le couvercle la pointe d'un couteau et découvrant ses surfaces brillantes, ses textures placides et onctueuses comme de la crème industrielle, de la crème Mont Blanc en bleu. Elle songe aux procédés qui permettaient autrefois d'imiter la couleur du ciel, à ces décoctions dont elle aimait réciter la composition à Jonas pour le faire rire, pour l'éblouir, pour jouer la sorcière affairée devant ses cornues, l'alchimiste possédant les secrets de la nature et les formules de sa métamorphose, essayant de nouveaux mélanges afin qu'il la regarde, afin qu'il l'interroge. Elle repense à ce bleu que l'on obtenait au Moyen-Âge dans des fioles emplies d'essence, de bleuet coupé avec du vinaigre et de l'urine d'un enfant de 10 ans ayant bu du bon vin. Et à cette outre-mer que l'on finit par utiliser au premier temps de la Renaissance en lieu et place de l'or, mais qui était plus éclatant que l'or, justement, et plus digne encore de peinture, un bleu qu'il fallait aller quérir au-delà de la mer, derrière la ligne d'horizon, au cœur de montagnes glacées, qui n'avaient plus grand-chose d'humain, mais recelaient dans leur fente des gouttelettes cosmiques, des perles célestes, des lapis lazuli que l'on rapportait dans de fines bourses de coton glissées sous la chemise à même la peau, les pierres pulvérisées à l'arrivée sur des plaques de marbre, la poudre obtenue, versée dans un mortier, puis mélangée selon la recette avec du blanc d'œuf, de l'eau, du sucre, de la gomme arabique ou de la résine de prunier, de cerisier, de la merdaluna, comme on disait alors à Venise, et broyée plus finement encore avec de l'eau de lessive, de la cendre, du sel d'ammoniac, avant d'être finalement filtrée dans une étoffe de soie ou de lin. Et toujours penchée au-dessus des pots, en orante, Paula perçoit soudain la voix de la dame au col roulé noir, ce jour où elle leur a déclaré, depuis la coursive de l'atelier, inclinée par-dessus le garde-corps, projetant sur eux son ombre tranchante, que la connaissance contenue dans ses préparations, leur fabrication savante et habile, tout cela donnait au tableau sa noblesse, sa bravoure, son énergie morale. Et sur ce dernier point, il était clair qu'elle ne plaisantait pas.
Merci.
D'ailleurs, on n'a pas quitté Léonard, parce que cette montagne qui est d'avant l'homme, cette montagne au fond ignorante et dédaigneuse de la vie des hommes, cette montagne d'avant le chaos originel, Léonard n'a cessé de la peindre dans le fond de tous ses tableaux jusqu'à la Joconde. Et ces enfractuosités d'où sourd le lapis lazuli, il n'a cessé de les peindre.
Je me disais, tu vois, ce qui était très fort pour moi, par exemple, c'était aussi d'apprendre tout cela et de me rendre compte une fois encore, puisque je pense... à ses autres livres sur le chantier d'un pont ou même sur la transplantation d'un cœur, c'est me rendre compte une fois encore que il y a dans le travail du roman, dans le travail de la fiction, un accès à la connaissance et que finalement la fiction comme peut-être mise en branle de la puissance d'imagination, comme pouvait en parler Baudelaire, c'est-à-dire c'est quoi la puissance d'imagination, le travail d'imagination, il disait, pardon, le travail d'imagination, voilà, c'est une marche aussi vers la connaissance. Et par exemple, pour moi, ce moment où je me souviens quand j'ai commencé à me dire, bon, alors le bleu, etc., les ciels, c'est quoi ces histoires de ciel pour... Évidemment que j'avais des tas de modèles, mais pour moi, ce qui a été très fort, c'est de me rendre compte que ces décoctions, ce savoir, évidemment la liste des ingrédients, leur aspect assez merveilleux aujourd'hui, était toujours si prégnant. C'est-à-dire que, contrairement à pas mal d'idées reçues, que je trouve assez imbéciles, justement, le savoir et la connaissance n'excluent pas le merveilleux. Au contraire, ils le font advenir de manière souvent encore plus intense et encore plus belle. C'est aussi le cas des pierres, par exemple. Sur la couverture de ce livre, j'avais trouvé cette photo qui fait partie de la collection des pierres de Roger Caillois. Et lui, il disait vraiment ça. Il s'intéressait aux pierres, aux formes des pierres, à leur beauté spontanée, innocente, une beauté justement, une beauté un peu de géologique, issue finalement de forces assez mystérieuses, leur beauté absolument énigmatique. N'empêchait pas justement de les connaître, de les nommer, des noms souvent assez savants, assez rebutants, toujours assez beaux pour moi, assez mystérieux. Et ce que j'aime dans mon travail, c'est aussi réactiver ces mots, bien sûr. Comme si justement le roman, comme opération de décentrement, m'emportait dans ces autres mondes, mais vers ces autres langues aussi. Et ça me touche beaucoup. Mais ce rapport à la connaissance qu'autorise la fiction, c'est aussi quelque chose qui est pour moi une forte émotion personnelle.
Oui, qui est l'émotion je disais, de la taxinomie, donc de la liste. Léonard ne cessait de dresser des listes, qui était une manière aussi de calmer son inquiétude d'être au monde. Et puis, quand même, il y a aussi cette autre question qui parcourt ton livre, qui est la question de la fiction et du facsimilé, c'est-à-dire de cette, on va dire vilainement, du trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand même, Paula va se mettre à peindre des faux marbres pour des banquiers, des grands bourgeois, voilà, c'est-à-dire va faire quand même un peu l'inventaire de toute la vanité du monde. Mais Donc cette puissance du faux, qui n'est pas du tout dénoncée, mais qui est dans le livre, ramenée, à sa force originelle. Parce que je relis une phrase du passage que j'ai lu. On finit par utiliser cette outre-mer que l'on finit par utiliser au premier temps de la Renaissance en lieu et place de l'or, mais qui était plus éclatant que l'or, justement. Nous sommes les filles et les fils de ce simulacre. C'est-à-dire qu'il fut un temps où la valeur de la peinture était tout entière dans les matériaux qu'elles utilisaient et que pour faire de l'or, on utilisait de l'or. Et puis, justement, à partir du XVe siècle, il y a une dématérialisation, disons, de la valeur de l'art qui fait qu'il est encore plus avantageux, il est encore plus luxueux, il est encore plus flatteur pour, justement, les riches banquiers du temps de se payer la main d'un peintre qui ne va pas utiliser de l'or, qui va utiliser des matériaux beaucoup moins chers, mais qui par artifice, c'est effectivement la question de l'effet spécial léonardien, qui par artifice va non pas imiter, ce n'est pas une question d'imiter, hein, mais va au fond faire miroiter la valeur avec un éclat supérieur, puisque c'est celui du génie humain. Et ça, c'est aussi, me semble-t-il, cette réhabilitation de la copie. On n'est pas très loin du faussaire, puisqu'on va se terminer quand même par Lascaux. C'est au cœur de ton livre.
Oui. Alors d'abord,
ça pose des problèmes historiques, évidemment. Oui. C'est pour ça que ça m'intéresse. Oui.
Moi, j'étais très, très sidérée hein, par cette histoire que le bleu a remplacé l'or, etc. Ça, c'est une chose que j'ai apprise en écrivant ce livre. Alors, sur la copie... voilà, ce qui m'émeut dans la copie. Bon, d'abord, moi, je copie beaucoup. Hein, je recopie beaucoup de textes et je copie beaucoup. J'ai des carnets où je copie des textes, des poèmes, etc. Je me suis rendu compte que je copiais d'abord, voilà, des fragments, ces formes de notes, et puis j'ai eu le désir de copier vraiment des livres. Et c'est une pratique quasi quotidienne en fait. Tous les jours, j'aime bien. Je suis. Ce qui me touche dans la copie, c'est que il y a de l'incorporation. C'est-à-dire que le copiste est traversé. Il est traversé par l'œuvre qu'il doit faire transiter. Il est son lieu et son corps est le lieu d'une forme de transit. C'est vrai que c'était aussi une dimension de réhabilitation pour moi. Et tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu as dit, bon, tout le monde peut, n'importe qui peut peindre Léonard, sauf voilà, ce moment où il abandonne quelque chose. Et c'est pour ça que moi, je ne crois pas non plus à la copie parfaite. Enfin, je pense évidemment que copier, c'est regarder, que regarder, c'est souvent imaginer, et que donc il y a immédiatement de la fiction, et que la fiction est paradoxalement peut-être le moyen, comme tu le dis, cette espèce de boucle, tu vois, vers le dehors, vers l'ailleurs, et puis en même temps qui permettent de revenir aussi très proche de soi. Et c'est vrai que pour moi, là, par exemple, mais bon, je connais mal le sujet, mais tu vois, je pensais beaucoup aux moines du Moyen-Âge, à toute la connaissance qu'a transité par les mains de cet homme, et notamment, par exemple, l'écriture dans la copie, et puis l'idée de refaire les gestes, et qu'est-ce que ça fait au corps de reproduire les gestes, et qu'est-ce que ça fera peut-être à Paul Lacarste, à un moment, d'avoir à refaire les gestes des peintres du paléolithique, le moment où justement il y a, elle va devoir reproduire, enfin pas les reproduire d'ailleurs, les peindre, parce que de fait, Lascaux, elle peint sans modèle, Le modèle, il est occulte, il est devenu invisible. Elle n'a plus le modèle original, elle ne l'a pas avec lui, mais elle doit le peindre. Et ça, c'est une question, le fait que le copiste soit traversé, le fait que par la main transite finalement l'œuvre dans son aspect pratique, dans sa pratique, dans son geste, c'est quelque chose qui m'a pas mal intriguée, qui m'a fait partir assez... ça m'a touchée.
Oui, parce que cette question, effectivement, de se laisser traverser...
Ouais, d'être traversé. Ouais.
Par le texte et aussi par le ton. Parce que, au fond, c'est ça qui est... Le copiste a, normalement, tu parlais du Moyen-Âge, et effectivement, on sait très bien que c'est plus qu'une incorporation, c'est une manière, effectivement, de continuer une histoire, mais elle doit, en parler de cadence au début de cet entretien, elle doit se faire à une cadence régulière et continue, c'est vraiment comme... voilà, une sorte de routine qui ne doit jamais ni ralentir ni s'accélérer. C'est tout le contraire de la peinture. Parce qu'effectivement, ce que tu montres, c'est que, bah, par exemple, dans son premier chantier, Paula, elle hésite, elle se met à peindre un peu rapidement, et puis, mais c'est la nuit, bon... dort un peu, elle se revoit ça
le
lendemain, elle dit mais ça va pas,
du tout.
Elle recommence, et donc il y a des sortes d'à-coups comme ça, et de brusques embardés, et bien sûr que être devant la peinture, c'est être devant le temps, mais pas simplement le temps qui nous sépare d'elle, mais aussi le temps qui a été incorporé. Par exemple, on n'a plus du tout idée que l'œil du Quattrocento voyait d'abord, aimait voir le temps de la création. Masaccio, par exemple, qui était considéré comme un génie, un météore, comme une fulgurance dans le ciel de la peinture florentine du premier tiers du XVe siècle, il jouait, je ne peux pas dire autrement, par de manière un peu bravache lui aussi, à... élargir les journées. Vous savez, il peignait à fresque, donc peindre à fresque, c'est peindre, c'est au fond une sorte de course contre la montre, contre effectivement contre un enduit qui est en train de sécher. Donc on peint à fresque.
Ah ouais,
on peint pour que du temps s'inscrive dans la matière. Or, c'est par bande. Et le jeu, c'est d'élargir la bande. Une bande s'appelle une journée. Et il ne voyait que ça. Les mécènes. Ils voyaient effectivement la virtuosité et ils voyaient que effectivement la chapelle Brancacci a été peinte en 10 jours. Avec un moyen, avec à chaque fois une façon d'allonger la foulée de manière presque frénétique. C'est la question de Lascaux. On n'a aucune idée du temps de... Mais quand même, quand on voit l'art pariétal, combien de temps ils y ont passé? Ça se compte peut-être en jours ou en heures. Or, pour le reprendre, pour le repeindre, pour le copier, il faut des mois, des années. Des années. Et là, on a effectivement une différence de tempo qui est considérable et qui pose la question qui est aussi commune, je crois, aux deux livres qu'on met en conversation, qui est la question de la contemporanéité, en fait.
Parce que, de fait, moi, ce que je me disais aussi, c'est que quand Paula peint, se sert à la fin, bon, c'est un petit peu l'achèvement du livre. Elle doit peindre l'un des cerfs, d'ailleurs très, très, très célèbre de Lascaux, qui a les bois qui s'achèvent par des espèces d'antennes. On a l'impression que c'est comme des réflecteurs, des antennes paraboliques. Elle devient contemporaine de ce qu'elle peint. C'est-à-dire qu'elle rallie un temps qui n'est pas le sien. Et pour le coup, je me dis souvent que dans la littérature, dans l'écriture, il y a une galerie qui s'ouvre, qui nous permet de rejoindre, rallier des temps qui ne sont pas les nôtres. En tout cas, être contemporain, ça pourrait aussi
Alors ça, c'est des choses qui ont été un peu pensées, l'inactualité, l'écart, l'anachronisme, mais en même temps qui nous permettent de rallier d'autres temps. Et elle fait souvent cette expérience dans le livre, notamment, elle voit passer Laurent de Médicis avec sa banderole, le temps revient lors d'une procession dans un décor de Cinecittà où il y a, voilà, où l'on a refait une sorte de muraille, une sorte de place médiévale avec l'église et tout, mais de fait qui pourrait être aussi bien celle de n'importe laquelle des villes d'Italie du Nord et tout. Et ça m'intéressait beaucoup parce que je me disais, voilà, c'est quoi cette histoire d'être contemporain et d'écrire et d'être contemporain. Évidemment, contemporain, c'est pas être dans l'actualité de son temps, puisqu'en fait, précisément, le roman, par exemple, c'est ce qui nous permet de parler du monde sans passer par l'actualité. C'est là où il y a quelque chose de tellement puissant dans la fiction aussi, dans le roman. Et donc, voilà, c'est cette question du contemporain. Et je pense qu'elle est aussi, évidemment, à l'œuvre dans Léonard et Machiavel, dans la mesure où tu emploies aussi ce mot de restitution. Je voudrais lire ce passage. De reconstitution, pardon. La scène que l'on doit reconstituer rassemble donc deux contemporains. Reste une énigme. Pourquoi ne nous disent-ils rien l'un de l'autre ? Cette ignorance mutuelle que l'on peine à trouver accidentelle est peut-être la part d'ombre la plus attirante de cette histoire, le vide vertigineux qui donne envie d'y précipiter du discours, mais pas de manière trop brusque, non. Plutôt en y jetant nos mots, un à un, parcimonieusement, à la manière des enfants au bord des cratères lorsqu'ils visitent les volcans anciens, et qui demeurent à la fois paralysés et vibrants du désir d'y vider leur poche pour entendre le bruit que fait la pièce de monnaie lorsqu'elle tombe au fond, et sachant bien, d'ailleurs, qu'ils n'entendront rien car la fosse est trop vaste. Nommer ce silence est impossible. Occultation, mais c'est déjà beaucoup trop dire, car cela suppose une épaisseur affective que rien, strictement rien, dans nos sources et dans nos textes ne permet de décrire entre les deux hommes. Je ne sais même pas comment qualifier ce qui les réunit. Et de guerre lasse, je concède parfois ce mot hideux de collaboration. Au moins a-t-il le mérite d'ôter à leur rencontre toute dimension émotive. Telle est l'immense chance que cette intrigue offre à celui qui prétend aussi l'écrire en historien. Elle ne ménage absolument aucune prise à toute tentative de reconstitution psychologique. Il y eut peut-être entre Léonard et Machiavel de l'amitié, de la reconnaissance, de l'admiration, de l'émulation, de la complicité, de l'affection. Peut-être aussi de l'incompréhension, de la jalousie, de l'agacement, des déceptions et des malentendus, des rancœurs et des promesses trahies. Pourquoi pas aussi de l'indifférence, mais nous n'en saurons jamais rien. Et la rigueur absolue avec laquelle notre documentation demeure toujours laconique sur ce point offre au lecteur une pierre de touche indiscutable sur le travail des historiens. Au premier adverbe ou au premier adjectif qu'il lâche pour caractériser la relation qui s'établit entre Léonard et Machiavel, on peut sans coup férir savoir qu'il fabule. Je ne renonce pas pour autant à décrire une connivence intime entre deux mondes, entre deux rêves, entre deux ambitions. Mais je la crois d'autant plus intime qu'elle fut façonnée par l'histoire. Au grand vent des événements extérieurs, ces bourrasques que Léonard de Vinci ne cessait de dessiner dans ses carnets et dont Machiavel tentait de décrire à sa manière la force impérieuse lorsqu'il théorisait la « qualità dei tempi », la qualité des temps. Vivre à la même époque ne suffit certes pas à faire des contemporains, et l'on pourrait même dire que la politique est aujourd'hui l'art d'accorder les contemporanéités de chacun. Léonard de Vinci et Nicolas Machiavel furent des contemporains, pas seulement parce qu'ils ont vécu la même période historique, pas seulement parce qu'ils ont voulu, parfois au même moment et souvent de la même manière, peser sur elle de manière décisive, mais parce que tout dans leur œuvre et leur action suggère qu'ils avaient en partage une même conception de la qualité des temps. Contemporanéité est un mot qui boite et qui grince, mais c'est le bon mot. Il exprime l'une des ambitions de ce petit livre,
comprendre ce qu'être contemporain veut dire.
Oui, c'est peut-être le passage du livre, je m'en souvenais plus pour te dire, où j'accuse l'écart entre, disons, une démarche d'historien et une démarche, je ne veux pas dire d'écrivain, mais enfin en tout cas assurément de romancier, hein, c'est-à-dire de quelqu'un qui va vouloir combler le vide, ça serait plutôt le romancier, le combler le vide des sources, plutôt que de le circonscrire justement le manque, qui serait plutôt pour moi le travail de l'historien, mais tu as bien entendu que je ne dis rien du travail de l'écriture. Voilà, c'est-à-dire que l'écrivain peut être d'un côté ou de l'autre, ou ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. C'est vraiment le rapport entre, disons, une fiction documentaire et une fiction imaginée. Voilà. Pour aller vite. Et ça, c'est voilà, c'est ce qui est le plus difficile à tenir, ce qui suscite vraisemblablement le plus d'incompréhension, parce que on est sur une ligne de crête assez acérée justement ou ouais. Tortueuse. Mais moi, j'y crois. Voilà, je pense qu'il faut se tenir là. Pour être contemporain, c'est-à-dire pour travailler à le devenir. Voilà. Étant entendu que si on n'y prête pas garde, si on n'y travaille pas, si on n'y réfléchit pas, si on ne converse pas, si on n'échange rien, si on n'apprend rien, alors effectivement, on est chacun dans notre bulle du temps. Bon. Les images, c'est merveilleux pour ça, parce que évidemment, elles nous rendent contemporains d'elles-mêmes, du fait même qu'on les regarde. Mais il y a d'autres moyens. Il y a les mots, il y a la restitution, il y a la reconstitution. Ce sont des mots, effectivement, qui peuvent avoir mauvaise presse, d'une certaine manière, tant ils sont galvaudés. Mais moi, je les crois sincères et je les pense utiles. Voilà. Et d'une certaine manière... je pense que le monde à portée de main, c'est aussi celui qui nous appartient évidemment de restituer dans son intensité, dans sa beauté, dans sa complexité, par des listes de mots, par des manières d'apprendre à le représenter. Et puis on s'était dit que pour terminer cette rencontre, eh ben tu pourrais lire, et ça sera vraiment la fin...
Les trois questions de Paula.
Les trois questions de Paula.
À nous deux, on pourrait former une belle équipe. C'est la dernière nuit à Rome, le charlatan est nu et l'eau fume dans la baignoire. Par la porte entrouverte, Paula l'observe depuis la chambre obscure, plongée jusqu'au cou dans une mousse excessive, le profil filtré par la vapeur mais moiré sous la lampe, scintillant, les yeux clos. À ces mots, elle a basculé sur le dos dans le lit défait, les doigts entrelacés derrière la nuque, les coudes relevés, saillants, deux ailettes dynamiques, ses longues jambes croisées aux chevilles, puis les yeux au plafond, elle a relancé d'une voix claire. Une association de malfaiteurs, plutôt, non ? Joueuse ici, actrice. Le charlatan ne répond rien, mais s'immerge lentement dans le bain, ses fesses glissent vers l'avant de la baignoire, son dos bascule en arrière. Sa tête disparaît dans le bouillonnement, la mousse diminue dans le clapot et les courants contraires, ça dure quelques secondes. Puis il refait surface, les cheveux lissés, tandis qu'elle déclare, pensive, « On pourrait rebâtir ce qui a disparu. » À présent, il se déplie à la verticale, massif et spumeux, le ventre énorme, la peau sitôt lustrée de fines gouttelettes, le poil du torse et du pubis redressé et frisant de nouveau. Il enjambe la baignoire et revient dans la chambre, les hanches ceintes d'un pagne en éponge à contre-jour. Placide. Alors Paula a poursuivi. On pourrait faire revenir ce qui a été oublié. Le rayon de lumière issu de la salle de bain dégagé s'abat sur le lit et vient fendre Paula. Ses seins, son ventre et son sexe apparaissent dans la largeur du trait. Sphère bombée, vasque convexe et triangle isocèle. Et elle articule encore, on pourrait retrouver ce qui a été perdu. Le charlatan déroule son pagne, oui, quelque chose comme ça. Puis il commence à se rhabiller, présente ses vêtements sous la lumière pour discerner l'envers de l'endroit. Il enfile son caleçon, sa chemise. Il ne l'a pas déboutonné la veille, mais l'a ôté par la tête avec l'aide de Paula, déjà nue, qui la lui retroussa le long de ses bras levés, haussé sur la pointe des pieds, biaisant les yeux sur ce ventre, dévoilé d'un coup, pâle, l'abdomen lourd, moelleux, le nombril déformé en folioles noires, le sexe pâle, après quoi le tissu avait plané en travers de la chambre, jeté. Il ajoute « On serait de vrais faussaires ». Et Paula, qui le regarde se rhabiller depuis le lit, troublée que la scène soit si réelle, bien que la chambre soit sans contour, fibreuse, fantomatique, conclut avec calme, de vrais peintres. Merci beaucoup.
Thank you.